Salutations et bienvenue à tous. Et pour continuer le Bodhicharya Avatara, nous en sommes donc au chapitre 8. Et plus précisément, nous en sommes à la stance 34. Avant que les quatre porteurs ne l'emportent au milieu des gémissements de son entourage, qu'ils partent pour la forêt. Ça, c'est ce que dit la stance 34 en français. Donc Rinpoche lit en anglais de son côté. Donc il explique que, bien sûr... on se place ici dans le point de vue, selon le point de vue d'un moine. Shantideva était devenu un moine, et bien qu'il ait été un prince, il a vu l'absence totale de signification et la vanité du fait de gouverner un royaume. Il a vu que s'il faisait cela, il ne serait pas capable d'aider de manière importante, significative, un grand nombre d'êtres. Et il aurait été, s'il avait suivi ce chemin, contraint à faire lui-même beaucoup de choses négatives afin de conserver son pouvoir et afin de faire son devoir de monarque. Et donc, ça ne lui aurait pas bénéficié à lui, à long terme, ça n'aurait bénéficié à personne, de façon profonde, et c'est pourquoi il a renoncé, et s'est retiré dans la forêt. Et puis, il est devenu moine, il a étudié, il a pratiqué, et il est devenu un grand maître. Bien sûr, après cela, il a fait beaucoup de choses et il n'est pas resté tout le temps dans la forêt. Même une fois, il est devenu le général en chef des armées d'un pays et il a réellement établi la paix, ce pays et ce royaume est devenu l'un des plus puissants, des plus sûrs et des plus stables royaumes. Mais en fait, il y a eu des ministres de ce royaume qui étaient jaloux de lui et qui se sont plaints de lui au roi en disant que voilà, ce général. C'est un général de pacotille, ce n'est pas un bon général. Et si vous regardez de plus près, il n'a même pas d'épée. L'épée qu'il porte est une épée en bois, ça n'est pas une vraie épée. Alors comment pourrait-il être un vrai général s'il n'a même pas une vraie épée? Et alors, Ela Rinpoche rigole. Il raconte que le roi a eu des doutes et qu'il a demandé à Shantideva de lui montrer son épée. Et Shantideva, en fait, son épée, c'était une épée de sagesse, en quelque sorte. Donc, je pense que c'était, certes, une épée de bois, mais c'était aussi une épée de sagesse. Donc, une épée miraculeuse, en quelque sorte. Et donc, Shantideva a dit, non, je pense que ce serait pas bien que je vous montre cette épée. Mais le roi a insisté, il lui a dit, je vous ordonne de me montrer votre épée. Et Shantideva lui a dit, d'accord, mais dans ce cas, il faut que vous fermiez l'un de vos yeux afin que vous puissiez voir cette épée sans que votre œil soit brûlé. Alors le roi était un peu agacé, il a dit, bon d'accord, mais maintenant tu me la montres, cette épée. Et donc, il a sorti cette épée du fourreau. Et elle produisait tellement de lumière et de rayonnement, cette épée, que l'œil ouvert du roi est devenu presque aveugle, tellement cette lumière était intense. Et donc le roi a dit « Rengaine, Rengaine !» Et donc ça s'est passé ainsi. Mais en tout cas, en tant que moine, en tant que pratiquant du dharma authentique, un pratiquant qui voudrait consacrer tout son temps au dharma, à la pratique du dharma, il devrait faire ainsi, il devrait se retirer. Parce que beaucoup d'entre nous qui sont soi-disant des moines, on est trop occupé. Et on pense que on est si occupé à faire des choses et à voyager et à enseigner, à faire ceci, à faire cela. Et en fait, on prétend qu'on fait ça pour le dharma, pour les gens. Mais en fait, dans la réalité, on devient tellement occupé que bien souvent, on se dit « je n'ai pas le temps de pratiquer le dharma ». Et pour, concernant cela, Sito Rinpoche nous a dit une fois que ces moines qui disent qu'ils n'ont pas le temps de pratiquer le dharma, ça le fait vraiment rire. Et il trouve que c'est vraiment à mourir de rire. Parce que si on est un moine, on est censé avoir tout le temps dont on a besoin pour pratiquer le dharma. Et si on dit qu'on n'a pas le temps de pratiquer le dharma, alors du coup, mais vous faites quoi de tout ce temps en fait ? Qu'est-ce que vous faites de tout ce temps ? Parce que c'est quand même pour ça que vous êtes devenu moine. Et donc ça arrive assez souvent. Et il parle de ça en ces termes. Et donc, et en Inde, quand une personne meurt, pour revenir au texte, le même jour, parce que comme l'Inde est un pays chaud, on ne peut pas garder le corps des personnes décédées chez soi longtemps. Donc le même jour où il meurt, le corps, on l'attache sur une sorte de palanquin qui est avec deux bâtons en bambou. Et puis il y a quatre hommes qui vont prendre ça sur leurs épaules et qui vont le porter près de la rivière. Et c'est là que ça va être brûlé. Et c'est pourquoi le texte fait mention du temps qui viendra où les quatre hommes viendront, les quatre porteurs viendront. Et donc, à ce moment-là, toute la famille, les amis qui seront en train de gémir, de pleurer, qui seront très malheureux, ça arrive tout le temps. Donc ce que dit le texte ici, c'est que jusqu'au moment de ma mort, depuis maintenant jusqu'au moment de ma mort, je voudrais aller dans la forêt. Donc, qu'est-ce qu'on entend par forêt ? Alors, c'est pas forcément à prendre au sens littéral. En fait, ce que ça veut dire, c'est que je voudrais consacrer mon temps je voudrais complètement consacrer mon temps à me concentrer sur la transformation de moi-même. Et, si possible, devenir un être totalement et pleinement réalisé. Et alors, si je faisais cela, alors je pourrais me dire que j'ai fait le meilleur et la chose la plus sensée et celle qui a le plus de sens pour moi-même. Et aussi, j'aurais fait la chose la plus utile pour les autres êtres. Parce que alors, je serais en mesure de vraiment aider les êtres. Parce que pour le moment, en fait, nous essayons d'aider, mais nous ne sommes pas capables de dire combien nous apportons vraiment d'aide. Peut-être même que parfois, loin d'apporter de l'aide, nous nuisons parce que nous ne sommes pas assez sages. Et en fait, nous ne connaissons pas les conséquences de nos actes, de ce que nous essayons de faire. Et donc ça, ce serait la plus grande aide si nous devenions éveillés, parce que alors, je ne pourrais pas seulement apporter davantage d'aide aux gens autour de moi, mais je deviendrais quelqu'un qui ne ferait que aider et qui apporterait une aide supérieure à tous les êtres tout le temps. Et donc, C'est pour ça que y a l'idée que je me retirerai dans la forêt. Et qu'est-ce qui se passe dans la forêt? C'est la stance 35. Sans attachement et sans aversion, réduit à mon corps solitaire, déjà mort au monde, il n'affligera personne de sa mort. Donc Rinpoche explique, quand je vais dans la forêt, quand je me retire en solitude, sans avoir trop de contact avec le monde, alors il n'y aura pas trop de personnes qui seront trop attachées à moi, ou auxquelles moi je serai attaché, trop. Et donc aussi, à cause de cela, il n'y aura personne qui m'en voudra, il n'y aura personne qui me fera des reproches, parce que pour que quelqu'un soit amené à m'en vouloir ou à me faire des reproches, ou pour que quelqu'un ait des problèmes avec moi, pour que quelqu'un ait des difficultés avec moi, il faut qu'on soit en quelque sorte proche ou ami, ou qu'en tout cas on ait une relation. Donc si je demeure en solitude, eh bien je n'ai pas de relation avec quelqu'un, je ne peux pas être moi-même trop attaché à des gens, et les gens ne peuvent pas non plus trop s'attacher à moi, et donc je n'ai pas d'ennemis, et donc je n'ai personne avec qui j'ai créé des situations difficiles, des problèmes, et donc je demeurerai seul en solitude. Donc, et je serai déjà vu comme monde, comme mort par le monde, parce que quand je suis dans cette solitude complète, dans une retraite à vie, alors pour la plupart des gens, comme ils ne me voient plus et comme ils n'ont plus de contact avec moi, c'est un peu, ils me traitent plus ou moins comme si j'étais déjà mort. Et si quelqu'un est traité comme s'il était déjà mort, et ben même si cette personne meurt, cette mort effective, elle ne va pas affliger tant de monde que ça, elle ne va pas rendre tant de monde que ça triste ou malheureux, ça ne sera pas quelque chose de douloureux parce que les personnes ne seront pas dépendantes de moi ou de cette personne qui se retire en solitude, et donc ma disparition, ma mort, ne serait pas cause de douleur pour un grand nombre de personnes. Et puis, donc on en vient à la stance 36. Personne près de lui dont le chagrin lui perce le cœur. Personne pour le distraire de la pensée du Bouddha. Donc là, Rinpoche lit voilà, lui en anglais. Et il explique que il n'y aura personne qui sera proche de moi à gémir, à pleurer, à être triste, à avoir du chagrin. Et donc, je n'aurai pas besoin d'être attaché à ces personnes. Je n'aurai pas besoin de souffrir, de ressentir de la douleur à cause de la douleur des autres causée par ma mort. Et donc, mon esprit ne sera pas distrait. Il pourra se focaliser seulement sur des choses positives, le Bouddha, le Dharma, ma pratique. Personne ne viendra me distraire de cela, de ma pratique. Donc, Rinpoche lit maintenant ces trois stances en tibétain, et il lit également la suivante dans la foulée, donc la stance 37.
Yete kunne donjin du chese shibu jein delu tena mate pa desu tena notsu shime kwenba wo meshin lundi jibu venit nani shedon jatsi na shana wo nyange sepame tonan kwepa soda jo nyange nyepa shemipi di sonji jiren su suju iwan jiwa meshin. Et on attendait que j'ai pendant une journée pour chasse.
Donc, la stance 37 en français. La solitude des forêts est délicieuse, exempte de peine, écartant toute dissipation. Je veux m'y consacrer toujours. Et Rinpoche explique que la forêt, c'est vraiment agréable, les bois avec des branches, des feuilles, et qui éclosent au printemps, qui sont fraîches, et puis ensuite, tout doucement, elles deviennent plus mûres, et puis elles sont agréables, et puis le temps est beau, ensuite on a toutes sortes de fleurs et de fruits qui arrivent, et tout ça, et puis tout doucement, les couleurs changent, on passe aux couleurs rouges, jaunes, et c'est si beau. Et donc les feuilles tombent, et puis ce sera l'hiver, et puis le soleil brille à travers les branches. Donc les quatre saisons qui changent, et vous allez voir des animaux sauvages, des fleurs, des rivières, des sources, des animaux qui courent. Il n'y a personne qui vous perturbe. Vous pouvez rendre votre esprit complètement libre, paisible, joyeux, et en même temps, vous pouvez vous transformer vous-même, vous pouvez devenir très compatissant, vous pouvez travailler sur votre sagesse, sur votre compassion, et par cela, vous pouvez aussi aider beaucoup d'êtres. Pas forcément que des êtres humains, mais aussi d'autres êtres. Et puis, si votre esprit est vraiment transformé, alors qu'ensuite vous restiez en forêt ou dans la solitude, ou que vous soyez avec des gens, en fait, vous serez en solitude. Donc, si votre compassion devient vraiment supérieure et si votre sagesse devient supérieure, alors que vous demeuriez en solitude ou non, que vous soyez avec d'autres êtres, vous aiderez des êtres. Et même si vous ne devenez pas aussi réalisé, aussi accompli, même si vous ne devenez pas aussi transformé, si vous ne faites pas des progrès aussi significatifs, au moins vous demeurerez paisible, joyeux, vous accumulerez beaucoup d'actions positives, d'actes positifs. Et vous ferez beaucoup de dédicaces. Et donc, vous semez ainsi les graines. Et vous gagnez la force et le pouvoir, la possibilité d'aider des milliards et des milliards d'êtres tôt ou tard. Et donc, je vais demeurer dans une délicieuse solitude. Peut-être que dans cette vie, je n'arriverai pas à aider les gens autour de moi, mais ça ne veut pas dire que la prochaine fois, je ne pourrai pas être beaucoup, beaucoup plus fort. Donc, ce ne sera pas juste une question d'aider 2 ou 3 personnes, ou même 100 de personnes, sans même savoir si je les aide ou si je leur nuis. Mais là, je pourrais vraiment aider des milliers, des centaines de milliers, des millions, des milliards d'êtres qui, rien que par le fait de me voir, ça bénéficiera à beaucoup d'êtres et qui seront libérés. Donc, être en solitude ne signifie pas qu'on ne peut pas aider les êtres. Parfois, le fait d'être en solitude nous permet d'aider encore plus d'êtres et de manière encore plus significative. Parce que, en fait, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas la puissance de l'esprit et la puissance des êtres. Parfois, un grand être qui demeure en solitude, dans les montagnes, dans les grottes, dans les forêts, sans voir personne, avec la puissance de son esprit, avec son énergie positive, Ils peuvent faire tant de choses pour aider réellement et transformer réellement la société, l'environnement, beaucoup de choses. Donc, en fait, on ne peut pas dire combien quelqu'un aide ou n'aide pas. Et donc, c'est ainsi. Je pense que je vais m'arrêter là. Donc, on a fait les stances 34 à 37. Merci beaucoup.